Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Anna Karénine, de Léon Tolstoï. Anna Karénine est une jeune femme mariée à Alexis Karénine. C'est la mère d'un jeune garçon, Seryora. Anna Karénine se rend à Moscou, chez son frère. En descendant du train, elle croise le comte Vronsky et tombe amoureuse de cet officier brillant mais frivole. Elle lutte contre cette passion et finit pourtant par s'abandonner avec un bonheur coupable au courant qui la porte vers ce jeune officier. Puis Anna tombe enceinte. Se sentant coupable et profondément déprimée par sa faute, elle décide d'avouer son infidélité à son mari. Après avoir mis au monde une fille, Anna contracte la fièvre et risque de mourir. Elle envoie un télégramme à son mari, lui demandant de rentrer et de lui pardonner. Elle se repent et appelle la mort comme une libération pour tous. Émue par le remords de sa femme et sa mort imminente, Alexis consent à lui pardonner. Puis quelque temps plus tard, une rencontre inopinée avec Vronsky suffit à faire voler en éclats la décision d'Anna. Elle se jette dans ses bras et ils décident de fuir ensemble à l'étranger. C'est pour Anna un moment de joie et de délivrance. Ils passent leur lune de miel en Italie, mais peu à peu Vronsky s'ennuie et regrette d'avoir abandonné sa carrière militaire. De retour en Russie, Anna et Vronsky vivent en marge de la société. Il suscite à la fois admiration et réprobation d'avoir ainsi bravé les conventions de la haute société russe. La fortune de Vronsky leur permet d'avoir une existence indépendante et ils parviennent à recréer autour d'eux une micro-société en marge du grand monde. Mais Anna ne supporte pas d'avoir abandonné son enfant et trahi son mari. Anna, en proie aux plus vifs tourments, est prise dans un engrenage dont elle ne peut se délivrer, met fin à sa vie en se jetant sous un train. En parallèle à leur aventure, Tolstoï brosse le portrait de deux autres couples, Kitty et Lévin, ainsi que Daria et Oblonsky. Léon Tolstoï est né le 28 août 1828 à Yasnaya Polyana, à 200 km au sud de Moscou. Sa famille appartenait à la grande aristocratie russe. En 1844, âgé de 16 ans, il s'inscrit à la faculté des langues orientales dépendant de l'université de Kazan en pensant devenir diplomate. Ses liens avec son frère aîné Nicolas, qui avait intégré l'armée, l'amenèrent au combat dans le Caucase, face aux montagnards dirigés par le chef rebelle Chamil. Il y vécut l'aventure et la gloire qu'espéraient tant de jeunes gens de son âge. L'abolition du servage ordonnée par Alexandre II le 19 février 1861 enchanta Tolstoï. Il exerça alors la fonction d'arbitre de paix, chargé de régler les contentieux entre les propriétaires fonciers et les serfs. Guerre et paix, qu'il met 5 ans à écrire, est considérée comme son œuvre majeure. Dans ce roman historique et réaliste paru en 1869, il dépeint surtout les classes supérieures, du fait de sa propre origine, au moment de l'invasion de la Russie par les troupes de Napoléon en 1812. C'est une vaste réflexion profonde et originale sur l'histoire et sur la violence dans la vie humaine. Tolstoï est un écrivain dont le talent est rapidement reconnu grâce aux récits autobiographiques de son enfance et de sa jeunesse, puis de sa vie de soldat à Sébastopol en Crimée. Il devient très célèbre, comme il le souhaitait, avec le roman d'Anna Karénine en 1877. Mais il n'est pas heureux. Il est angoissé et nihiliste. Au terme d'une recherche intense pour répondre à ses interrogations existentielles et philosophiques, il s'enthousiasme pour la doctrine du Christ. Dès lors, et jusqu'à la fin de sa vie, il exprime son idéal de vérité, de bien, de justice et de paix dans des essais, parfois dans des fictions. Durant les 20 dernières années de sa vie, Tolstoï a vu la montée des mouvements socialistes, la révolution de 1905, sorte de répétition générale de celle de 1917, et la montée des périls qui mènera, quelques années après sa mort, à la Grande Guerre et à la disparition de l'Empire tsariste. À la fin de sa vie, ses relations avec son épouse sont des plus difficiles, marquées notamment par des disputes familiales et par la décision de Tolstoï de déshériter ses enfants. C'est une sorte de révolte générale contre la richesse, l'ordre établi, l'art et même la littérature. Un anarchiste chrétien sans église. Il aura eu 13 enfants et connu 48 ans d'amour-haine avec Sophie, sa femme, qui a recopié tous ses manuscrits. Le 31 octobre 1910, alors qu'il est de passage à la gare d'Astapovo, à 130 km de Moscou, il contracte une pneumonie et doit être alité. Agonisant, il refuse la visite de son épouse. Tolstoï meurt le 7 novembre 1910. Il y a bien une Russie éternelle, celle de la littérature du XIXe siècle et début du XXe, et de ses grands auteurs, entre romantisme, tragédie, mélancolie et combat. Eugène Onéguine, de Alexandre Pouchkine en 1833. Le protagoniste, Onéguine, un être sans cœur et vide, détruit accidentellement la vie des autres et finit par se retrouver sans rien. Guerre et paix de Léon Tolstoï en 1869, un portrait d'entomologiste de la Russie du XIXe siècle et de ses différents conflits. Les frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski en 1879 avec cette question « Dieu peut-il exister dans un monde aussi imparfait ?» Les bas-fonds de Maxime Gorki en 1903 « Comment comprendre la jeunesse de la révolution russe ?» La Cérisée d'Anton Tchekhov en 1904, une magistrale pièce sous la nostalgie et le paradis perdu. Vers 4 heures, Lévine quitta son izvotchik à la porte du jardin zoologique et le cœur battant, suivit le sentier qui menait aux montagnes de glace, près de l'endroit où l'on patinait. Il savait qu'il la trouverait là, car il avait aperçu la voiture des Tcherbaski à l'entrée. Il faisait un beau temps de gelée. À la porte du jardin, on voyait rangés à la file des traîneaux, des voitures de maître, des izvotchiks, des gendarmes. Le public se pressait dans les petits chemins frayés autour des isbas décorées de sculptures en bois. Les vieux bouleaux du jardin, aux branches chargées de givre et de neige, semblaient revêtus de chasubles neuves et solennelles. Tout en suivant le sentier, Lévine se parlait à lui-même. « Du calme, il ne faut pas se troubler. Que veux-tu? Qu'as-tu? Tais-toi, imbécile !» C'est ainsi qu'il interpellait son cœur. Mais plus il cherchait à se calmer, plus l'émotion le gagnait et lui coupait la respiration. Une personne de connaissance l'appela au passage. Lévine ne la reconnut même pas. Il s'approcha des montagnes. Les traîneaux glissaient, puis remontaient au moyen de chaînes. C'était un cliquetis de ferraille, un bruit de voix joyeuse et animée. À quelques pas de là, on patinait, et parmi les patineurs, il la reconnut bien vite et sut qu'elle était près de lui par la joie et la terreur qui envahirent son âme. Debout, auprès d'une dame, du côté opposé à celui où Lévine se trouvait, il ne se distinguait de son entourage ni par sa pose ni par sa toilette. Pour lui, elle ressortait dans la foule comme une rose parmi les orties, éclairant de son sourire ce qui l'environnait, illuminant tout de sa présence. « Oserais-je vraiment descendre sur la glace et m'approcher d'elle ?» pensa-t-il. L'endroit où elle se tenait lui parut un sanctuaire dont il craignait d'approcher, et il eut si peur qu'il n'en fallut de peu qu'il ne repartît. Faisant un effort sur lui-même, il arriva cependant à se persuader qu'elle n'était entourée de gens de toute espèce et qu'à la rigueur, il avait bien aussi le droit de venir patiner. Il descendit donc sur la glace, évitant de jeter les yeux sur elle comme sur le soleil, mais, de même que le soleil, il n'avait pas besoin de la regarder pour la voir. On se réunissait sur la glace, un jour de la semaine, entre personnes de connaissance. Il y avait là des maîtres dans l'art du patinage qui venaient faire briller leurs talents, d'autres qui faisaient leur apprentissage derrière des fauteuils, avec des gestes gauches et inquiets, de très jeunes gens, et aussi de vieux messieurs, patinant par hygiène. Tous semblaient à Lévin des élus favorisés du ciel, parce qu'ils étaient dans le voisinage de Kitty. Et ses patineurs glissaient autour d'elle, la rattrapaient, lui parlaient même, et n'en semblait pas moins s'amuser avec une indépendance d'esprit complète, comme s'il eût suffi à leur bonheur que la glace fût bonne et le temps splendide. Nicolas Tcherbaski, un cousin de Kitty, vêtu d'une jaquette et de pantalons étroits, était assis sur un banc, les patins aux pieds lorsqu'il aperçut Lévin. « Ah ! S'écria-t-il, le premier patineur de la Russie, le voilà ! Es-tu ici depuis si longtemps ? Mets donc vite tes patins, la glace est excellente. »« Je n'ai pas mes patins. » répondit Lévin, étonné qu'on pût lui parler en présence de Kitty avec cette liberté d'esprit et cette audace, et ne la perdant pas de vue une seconde, quoiqu'il ne la regardât pas. Elle, visiblement craintive sur ses hautes bottines à patins, s'élança vers lui, du coin où elle se tenait, suivie d'un jeune garçon en costume russe qui cherchait à la dépasser en faisant les gestes désespérés d'un patineur maladroit. Kitty ne patinait pas avec sûreté. Ses mains avaient quitté le petit manchon suspendu à son cou par un ruban et se tenaient prêtes à se raccrocher à n'importe quoi. Elle regardait Lévin qu'elle venait de reconnaître et souriait de sa propre peur. Quand elle eut enfin heureusement pris son élan, elle donna un léger coup de talon et glissa jusqu'à son cousin, Tcherbaski. Tcherbaski s'empara de son bras et envoya à Lévin un salut amical. Jamais dans son imagination, elle n'avait été plus charmante. Il lui suffisait toujours de penser à elle pour évoquer vivement le souvenir de toute sa personne, surtout celui de sa jolie tête blonde à l'expression enfantine de candeur et de bonté, élégamment posée sur des épaules déjà belles. Ce mélange de grâce d'enfant et de beauté de femme avait un charme particulier que Lévin savait comprendre. Mais ce qui le frappait toujours en elle, comme une chose inattendue, c'était son regard modeste, calme, sincère, qui joint à son sourire, le transportait dans un monde enchanté où il se sentait apaisé, adouci, avec les bons sentiments de sa première enfance. « Depuis quand êtes-vous ici ? » demanda-t-elle en lui tendant la main. « Merci, » ajouta-t-elle en lui voyant ramasser le mouchoir tombé de son manchon. « Moi, je suis arrivé depuis peu, hier, c'est-à-dire aujourd'hui, » répondit Lévin, si ému qu'il n'avait pas bien compris la question. « Je voulais venir chez vous, » dit-il, et se rappelant aussitôt dans quelle intention il rougit et se troubla. « Je ne savais pas que vous patiniez, et si bien ?» Elle le regarda avec attention. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.